1, 2. Bon, nous sommes de nouveau à bord du NOSCAF et nous avons réussi à attraper ce 50 Hertz parasite qui avait infiltré notre réseau. Donc, je redis, bienvenue ce soir à bord du NOSCAF de Silicon Maniac, en présence de Pierre Clisson, Karine Guillorel et d'un invité. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez nous rejoindre pendant le voyage dans la noosphère. Alors, l'émission d'aujourd'hui, cette émission, donc je remercie Silicon Maniac de m'avoir donné carte blanche. Hein, je vais vous parler de la no-individuation des avatars, hein, c'est-à-dire ce moment où les avatars peuvent prendre vie à travers nous. Mais auparavant, on parlera avec Karine Guillorel qui nous racontera ses périples noosphériques et réels à travers le monde réel, puisque c'est une grande voyageuse. Et en fin d'émission, Pierre Clisson nous parlera du hacking et de la magie du chaos. Donc, je vous le rappelle, nous n'allons pas explorer le cyberespace vanilla et mainstream qui se répand dans nos villes et nos musées. Je vous confie à une immersion dans la hard cyberculture, celle qu'on ne rencontre qu'à la demeure du chaos, à Sauterrain Porte 6, au Totem à Nancy ou au festival Aliénor de Lille. 4 émissions, dont celle-ci est la troisième, et la dernière sera consacrée au cybersexe la semaine prochaine. Alors, je vous rappelle aussi que nous sommes tous des noonautes ce soir, dans des explorateurs de la noosphère. Et je vais juste faire une petite aparté sur les natifs cyberspatiens. C'est-à-dire, la semaine dernière, on avait fait des métaphores sur la conquête de l'Ouest, hein, le web, l'Internet, les réseaux étant l'Ouest à conquérir. Et pour réagir à ce qu'avait dit Quentin, je pense que nous sommes, les natifs cyberspatiens, et les tuniques bleues sont en train de nous envahir. Donc nous avons assez chaud aux fesses en ce moment sur l'invasion des nouveaux territoires. Et heureusement, nous avons d'autres nouveaux territoires à conquérir pour fuir la conquête des tuniques bleues. Alors, Karen, je vais d'abord vous parler de Karen. Karen, c'est la poésie, c'est-à-dire que j'ai fait venir Karen parce que c'est une grande voyageuse. Une grande voyageuse, autant moi je voyage dans les mondes virtuels, autant Karen voyage à la fois dans les mondes virtuels et aussi dans les mondes réels. Hein. Karen, à 12-13 ans, assemble ses premières stations informatiques, programme des jeux d'aventure en SOS sur Atari. Elle est rédactrice de l'excellent fanzine de SF et de fantasy Chasseurs de rêves, coéditrice avec Michael Ivora de l'artbook Terra Incognita, ancienne animatrice de Rêves de jeu, qui était une colonie de vacances précurseur où les participants jouaient à des plein de jeux pendant tout leur séjour, ce qui leur a donné une expertise sur le développement de jeux vidéo. Et elle va travailler très tôt dans le monde du jeu vidéo, en particulier sur le projet de MMORPG français Rhizome. Et maintenant, elle est scénariste de jeux et de fiction vidéo et un des rares auteurs spécialistes du transmédia en France. Mais, paradoxalement, Karen est aussi une grande voyageuse qui a fait Paris-Jérusalem à pied et en vélo, dont elle a écrit un livre qui s'appelle « De l'aventure au voyage intérieur » qui est paru aux presses de la Renaissance. Et elle en a aussi fait un film. Et avec les Troubadours, c'est une de ses dernières grandes aventures dans le monde réel. Elle a marché de Barcelone à Paris avec 2 ânes, chargés de matériel informatique et de livres, à la rencontre des avatars de Second Life. Alors Karen, j'espère que j'ai pas trop trahi.
Non, le résumé était bon.
Toutes tes aventures entre réel et virtuel. Alors d'où te viennent tes racines, cette vocation au voyage en grandeur réelle?
Alors en fait, durant mon enfance, j'étais comme beaucoup inspirée par ce qu'on appelle des sous-cultures, que ce soit de la bande dessinée, des dessins animés, du jeu vidéo. Le jeu vidéo en particulier a joué un grand rôle dans le fait que je sois intéressée par le voyage dans son caractère initiatique. C'est pas tant les grands voyageurs tels qu'on les imagine habituellement sur des vieilles photographies qui m'ont inspiré, c'était plutôt de voir les mondes engloutis et de jouer à des jeux d'aventure sur mon Atari à l'époque. Donc j'ai un souvenir assez ému, par exemple des jeux de LucasArts, que ce soit Monkey Island, Maniac Mansion, pour ne citer que. Et un jeu vidéo qui a été important sur le dernier voyage que j'ai fait, Troubadour, ça a été le jeu Troubadour de l'Encore, qui nous invitait, qui était l'aventure en fait de deux enfants qui allaient de cour seigneuriale en cour seigneuriale et rencontraient des personnages fantastiques qui leur apprenaient la poésie. C'était un jeu pédagogique, mais pour une fois qui n'était pas inintéressant. Et je me suis rendu compte en faisant ce voyage, Il Troubadour, donc, qui m'a emmené de Barcelone jusqu'à Amsterdam avec des ânes à pied, donc les ânes portant le matériel informatique, que bah, finalement c'était bien ce jeu Troubadour de l'Encore qui était la racine de ce long périple.
Donc tu es en train de nous dire que grâce au jeu vidéo, c'est-à-dire au monde virtuel, un jeu qui se passe dans l'immatériel, ça va t'inciter à faire un périple dans le monde réel, un peu à l'image du monde virtuel ?
Oui, oui, complètement. Et avec des petites anecdotes qui sont assez, assez rigolotes. Par exemple, finalement, je suis partie faire ce voyage à pied vers Jérusalem, qui m'a pris quand même 7 mois. En quittant en fait Nevrax, la boîte de jeux vidéo dans laquelle je bossais, sur le jeu Rhizome. Et le jeu Rhizome lui-même en fait était un jeu d'aventure où on découvrait des continents, où on rencontrait des nouvelles personnes en permanence. Donc finalement j'ai continué de baigner même adulte dans ce milieu du jeu vidéo et qui a été à l'origine de mes grands voyages.
Et alors donc, parle-nous des e-troubadours, parce que dans le but des e-troubadours, c'est que vous êtes en train de remonter avec deux ânes, donc à pied de Barcelone à Paris, et les ânes sont, je me rappelle que les ânes sont remplis de matériel informatique, d'abord d'un système de GPS qui permet de vous géolocaliser, et en fait vous utilisez la très belle expression de remonter le long des oasis numériques, c'est-à-dire que vous vous donnez des rendez-vous dans les oasis numériques, qui sont les lieux de connexion Wi-Fi, qui vous permet de rencontrer, d'aller à la rencontre ou d'inviter les gens de Second Life en particulier, donc les avatars de Second Life, les gens qui sont derrière les avatars de Second Life, à venir vous rencontrer dans le monde réel. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. En fait, ce voyage, il était à mi-chemin entre réel et virtuel, si on peut utiliser cette expression-là. C'est-à-dire qu'effectivement, jour après jour, on marchait côte à côte avec les ânes qui portaient effectivement notre matériel. Et régulièrement, on se connectait sur ces fameuses oasis digitales et avait lieu un événement numérique sur Second Life où il y avait des expositions, des lectures à haute voix, des installations digitales qui étaient montrées aux personnes qui nous suivaient et qui en profitaient pour suivre notre pérégrination par le biais de vidéos qu'on montait dans les bars qu'on croisait en chemin.
Et tu as obtenu un sponsoring de Linden Lab, hein, je crois,
ouais,
ainsi que de la bibliothèque francophone et de la galerie de Tournicoton.
Et Alchimie aussi.
Alchimie, oui, voilà, c'est ça. Et tu as des gens qui vous ont rejoint dans le monde réel ?
Oui, tout à fait. En fait, au départ, effectivement, on portait la balise de géolocalisation, qui est une simple balise orange, je m'en souviens, qui permettait de nous voir sur Google Maps. On avait aussi un téléphone portable avec nous et les gens qui souhaitaient venir nous rejoindre, en fait, regardaient où on était sur la carte, prenaient leur voiture le plus souvent et faisaient un bout de chemin avec nous. Donc on a eu des personnes de Second Life qui sont venues, qui ont marché quoi, une dizaine de kilomètres avec nous et puis qui repartaient tout tranquillement.
Et alors il y a des très belles anecdotes, il y en a deux que j'ai retenues. D'une part, vous deviez faire Paris-Amsterdam, et pourquoi vous n'avez pas pu aller jusqu'à Amsterdam avec les deux ânes ?
Alors on devait aller de Barcelone à Amsterdam, effectivement. Oui. On a dû s'arrêter à Paris pour des raisons très pragmatiques, c'est que nos ânes étaient ferrés. On avait besoin de rencontrer des maréchaux ferrants sur notre route, donc, parce que les fers ne tiennent pas très longtemps sur le goudron. Et il se trouve qu'arrivé vers Paris, tous les maréchaux qu'on rencontrait ou qu'on contactait en fait, ne souhaitaient pas ferrer les ânes qui étaient un petit peu rétifs. Ce qui fait qu'on a dû, pour protéger les bêtes, arrêter avec eux à ce moment-là. Donc on a continué à vélo jusqu'à Amsterdam.
Voilà, donc en fait, les grands mythes du Moyen-Âge de remonter avec des ânes jusque toute l'Europe n'est plus possible dans notre modernité, puisqu'on ne peut plus trouver de maréchaux ferrants, plus on monte dans le Nord,
oui,
c'est ça ?
Oui, oui, enfin, c'est ce qui nous est arrivé, en tout cas.
Et il y avait aussi cette histoire que j'avais trouvée très belle, quand vous arriviez, vous arrêtiez dans les McDo, hein, avec les ânes, pour faire des escales, pour manger, et pour vous connecter en Wi-Fi, et vous traversez, en fait, vous avez beaucoup traversé les grandes banlieues, hein, les banlieues industrielles, et il s'est passé des événements à cause des ânes quand vous êtes arrivé dans les banlieues, qui faisaient le lien, je crois, avec les populations.
Oui, tout à fait, parce que finalement, les ânes, il y en a eu beaucoup à une certaine époque. Et les personnes âgées profitaient de notre passage pour pouvoir raconter à leurs petits-enfants ce que pouvait être la vie d'autrefois. Et en particulier, parmi les populations arabes, il y avait le souvenir du bled, en fait, qui était présent. Et c'est comme ça qu'on a eu beaucoup contact avec des gens qui nous ont dit qu'on leur rappelait leur pays, en fait.
Et les gens devaient quand même un peu halluciner quand ils voyaient garer les ânes au McDo.
Alors, je tiens à souligner qu'on n'a pas mangé que des hamburgers. Effectivement, il se trouve qu'on s'est arrêté dans les fast-foods qui avaient du Wi-Fi parce qu'on avait un problème technique important à l'époque. On avait pas de... C'était compliqué avec les clés 3G parce que ça coûtait cher.
C'était en quelle année déjà ?
C'était en 2008. Et que le flux en fait nécessaire pour pouvoir utiliser un monde virtuel filait vite avec la 3G. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'arrêtait à des endroits publics où il y avait du Wi-Fi. Et on savait avec certitude que certains fast-food dont tu as cité le nom avaient du Wi-Fi en permanence. Donc effectivement, on garait les ânes devant le fast-food. Ce qui faisait halluciner les gens qui venaient avec leurs enfants et qui nous voyaient débarquer. Et on se connectait à ce moment-là.
Un dernier point, avant qu'on écoute une chanson, une musique de Laurent Gobert pour les Itroubadours, peux-tu nous parler de ton projet qui sont les... Comment ça s'appelle le livre itinérant là, que tu as créé ?
Traverse.
Traverse, voilà.
Alors en fait, Traverse, livre voyageur, c'est un ouvrage qui a pour vocation d'être échangé de main à la main. Il y en a environ 1000 qui se baladent sur la planète à l'heure actuelle, la thématique étant sur le voyage. Et cet ouvrage, en fait, ce projet d'ouvrage, il est né de ce premier voyage de Paris à Jérusalem, parce qu'il faut savoir qu'un sac à dos, c'est lourd, donc on ne peut pas vraiment emporter de livres avec soi. Et moi, j'en avais toujours un en permanence avec moi, malgré tout, que je lisais et puis que j'abandonnais en chemin. En sortant en fait de ce voyage, je me suis dit, je vais créer un ouvrage qui utilise les voyageurs pour se balader sur la planète. Et c'est Traverse. Traverse donc, qui a été édité en 2007 et que nous avons accompagné par ailleurs pendant Itroubadour, parce qu'en plus de nous balader entre réel et virtuel pendant Itroubadour, nous portions aussi avec nous des ouvrages, 200 ouvrages, que nous suspendions aux arbres notamment, pour échanger avec les gens qu'on rencontrait en cours de route.
Donc c'est bien ça, si on va sur Internet et qu'on cherche Traverse Livre Voyageur, on voit l'itinéraire des livres sur la planète.
Oui, hein. Tout à fait. Pour chacun des ouvrages, on voit l'itinéraire.
Chaque ouvrage a un nom et circule. Alors on va écouter, on va faire une pause musicale, et pendant la pause musicale, tu vas nous dire quels sont tes prochains projets. Donc là, c'est Laurent Gobert, hein, c'est bien ça, qui a composé des musiques pour les Itroubadours.
Oui. Hein,
et vous allez éditer un disque, hein, je crois.
Alors en fait, le disque sort là dans quelques jours, et effectivement, Laurent Gobert a composé la musique avant et pendant le voyage, dans un temps extrêmement réduit. Donc il a suivi le voyage au jour le jour et s'en est inspiré.
Donc tes prochains projets, je crois, c'est une projection d'un film à Avignon ?
Oui, tout à fait, là, samedi, mon film de voyage de Paris à Jérusalem, 6000 km du couchant au levant.
D'accord, et puis tu es à Passaporta ?
Passaporta, c'est un festival des littératures internationales, ce sera le 27 avril à Bruxelles, oui.
Et tu vas être dans les mondes virtuels, hein, puisque tu vas participer à l'interview sur la FrancoGrid. Hein, la FrancoGrid étant l'équivalent alternatif de Second Life, hein, dans les univers simulés. Là, ça y est, les sims alternatives, ça y est, j'ai un trou, bon, c'est pas ça. Très grave. Et donc tu vas parler, justement, tu vas nous raconter à nouveau tout ça, je pense. Hein,
oui, tout à fait. C'est Lorenzo Socavo qui m'a invité à parler de tout ça sur Métalecture. Et ce sera le 23 mai.
Eh bien, merci Karen. Tu veux pas rajouter quelque chose ? Non ?
Non, pas particulièrement. Je te remercie aussi.
Donc, on va écouter Laurent. On va faire une petite balade avec Laurent dans de la musique quasi acoustique dans ce voyage de NoNautes. Thank you. de retour dans le Noscaf. Et alors, avant que Pierre nous parle de magie du chaos et de hacking, je vais vous parler des prophéties autoréalisatrices des mythes et de la no-individuation des avatars. Alors, je vous cite un texte qui est dans l'Iliade, 850 avant Jésus-Christ. Des servantes s'empressaient pour soutenir le prince, toutes d'or, mais semblables à des jeunes vivantes, elles ont un esprit dans leur diaphragme, elles ont la voix, la force, et les immortels leur ont appris à agir. À soutenir le roi, elles s'empressaient donc. On a une description, dans l'Iliade, de robots gynoïdes, c'est-à-dire de personnages en or qui assistent Héphaïstos, dieu grec de la technologie. Alors c'est très intéressant parce qu'on a là un mythe assez puissant qui semble indiquer soit qu'il y avait cette fameuse cité mystérieuse de l'Atlantide et sans doute des extraterrestres et des robots dans le passé. Mais l'autre solution aussi, l'autre possibilité, c'est que, en fait, ce texte dans l'Iliade montre que nous sommes habités, déjà depuis l'Antiquité grecque, de l'idée de créer des créatures artificielles et à l'image de la femme, en l'occurrence des gynoïdes. Et donc c'est une sorte de, moi je dirais, de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire les mythes sont l'expression de programmes, de volonté, de réaliser des choses. Et alors une autre prophétie autoréalisatrice, c'est le déluge. Et dans la mythologie hindoue, Matsya, le poisson, est le premier avatar de Vishnu. Qui est recueilli par Manu dans les eaux du Gange, qui le met dans un pot pour avoir un compagnon. Mais le poisson grandit tellement que Manu doit le remettre à la mer. Pour le remercier, Matsya révéla sa propre identité de Vishnu et prévint Manu qu'il devait construire une arche avec un couple de chaque plante et espèce pour préserver la vie d'un déluge à venir. Donc le mythe du déluge est aussi un mythe que je pense être une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que ça met en évidence sans doute pas, ou peut-être qu'il y a eu des accidents, comme des petits déluges dans le passé, mais je pense que ça met surtout en évidence que nous sommes habités par un programme qui est de sauver la vie. Nous sommes l'humanité, à le regard tourné vers les étoiles depuis l'aube de l'humanité, et nous avons, paradoxalement, même si nous détruisons notre environnement actuellement avec les technologies, nous sommes individuellement habités par l'idée que nous sommes investis du rôle de sauver la vie. Sauver la vie de quoi ? Ben, sauver la vie de sa disparition inéluctable, car si la vie reste confiné dans le système solaire, dans 4 milliards d'années à 1 milliard d'années, elle est foutue. C'est-à-dire la vie ne pourra pas perdurer. Et donc la seule espèce sur la planète actuellement capable de d'essaimer dans l'espace, de faire en sorte que la vie puisse s'affranchir de la pesanteur terrestre, c'est l'humanité. Vous avez dû le remarquer d'ailleurs, comme je le disais à l'émission précédente, il n'y a pas d'arbre entre la Terre et la Lune. C'est-à-dire que la vie n'a pas réussi, par les biais traditionnels, à construire un chemin, à se faire un chemin vers les étoiles. Donc c'est nous, intelligence collective, qui sommes investis du rôle de sauver la vie. Et le mythe du déluge est l'expression de ce pré-programme, enfin, de mon avis. Et alors là, je passe directement. Alors on peut remettre les ambiances du Noscaf, parce que je vais me balader donc. À nouveau, comme vous le savez, nous sommes actuellement immergés dans un monde virtuel, le Noscaf. Alors, c'est très important, je vous le dis, si vous suivez l'émission actuellement, si vous tapez noradio.com, noradio.com, vous avez le conducteur de l'émission avec tous les liens vers les sujets que nous allons aborder. Et surtout, j'ai innové, vous pouvez télécharger en ligne le monde virtuel dans lequel nous sommes actuellement. C'est-à-dire, j'ai créé un conducteur de l'émission en 3D temps réel avec le logiciel Unity, dans lequel sont toutes les ambiances sonores que vous entendez actuellement. Et si vous le voulez, vous pouvez aller télécharger. Vous trouverez le lien sur noradio.com. Vous trouverez le lien, et je pense sur Silicon Maniacs, dès qu'on aura le temps de le mettre.
Oui, pas de problème.
vers cette ambiance sonore.
Et on peut pas te rejoindre dans le monde virtuel ?
La semaine prochaine, je vais mettre en place la possibilité qu'on se retrouve tous ensemble, soit via Second Life, excellent, soit via Unity. Et alors, je termine, avant de donner la parole à Pierre, sur le gros morceau de cette émission pour moi, qui est la no-individuation des avatars. C'est-à-dire, je vais vous parler d'un phénomène très étrange qui est nouveau, je pense, dans notre histoire, qui est ancien parce que les acteurs, les comédiens, certains écrivains connaissent ce phénomène-là, mais nous allons en masse explorer un champ qui n'était réservé qu'à certains auteurs, en fait, spécialistes de la création artistique, qui est la individuation des avatars. Alors, l'histoire commence il y a quelques années. J'ai écrit un roman qui s'appelle Thanatos les récifs. C'est une commande. C'est une commande pour Florent Massot, de mon éditeur, de mon directeur de collection, Raymond Audemars, qui, après que je lui ai raconté la saga des récifs, cette saga d'univers de rochers dérivant dans les airs, me dit « Il faut que je vais te passer commande d'un livre et tu vas l'écrire. » Et là, je découvre, grâce à lui, grâce à cette commande, le travail d'écriture. Et je vais invoquer, pour créer ce roman, des personnages, donc des personnages gentils, des personnages méchants, enfin toute une dramaturgie. Et je vais découvrir ce que Pirandello raconte dans « Six personnages en quatre d'auteur », c'est que les êtres, les entités que j'invoque, que je crée, ces personnages de fiction, se mettent à vivre dans ma tête, c'est-à-dire se mettent à être exigeants, même, en particulier le personnage négatif, qui est Gilles Yandret, inspiré de Gilles Doré, qui est un héros négatif, donc qui est très méchant, qui est un serial killer industriel, on va dire. Il a bien fallu que j'assume sa méchanceté. C'est-à-dire, naturellement, je ne suis pas un serial killer, enfin, jusqu'à ce que je sache. Et je ne suis plutôt gentil. Et en invoquant ce personnage méchant, il s'est mis à exiger d'avoir une méchanceté crédible. Et du coup, j'ai dû me laisser envahir, on va dire, par cette entité. Et donc, j'ai déjà découvert que quand on fait un travail d'auteur, et je pense que les comédiens connaissent aussi ce phénomène-là, on peut être habité par des entités psychiques qui nous appartiennent, qui font partie de nous-mêmes et qui sont aussi héritées de notre intelligence collective, de notre conscience collective, et qui peuvent être même plus qu'envahissantes. Lorsque je découvre Second Life, d'ailleurs grâce à Karen, hein, c'est Karen qui me fait découvrir Second Life, hein, un jour, comme elle travaille dans les jeux vidéo, un jour elle me dit, il faut que je raconte l'anecdote parce qu'elle est rigolote, elle me dit « Yann, il faut absolument que tu vois ce que c'est Second Life ». Et je me branche sur Second Life et là ça m'énerve parce que c'est moche, c'est lent, il faut payer partout, il y a de l'argent, très énervant, très irritant. Et à tel point d'ailleurs que je suis fâché contre Karen,
oui, je m'en souviens,
de m'avoir embarqué dans un truc aussi nul. Et une autre amie, lui, qui est artiste, un graphiste, m'appelle trois jours après et me dit « Mais Yann, est-ce que tu as vu les donjons dans Second Life ?» Et je dis « Quoi les donjons ?» Et elle me dit « Bah, c'est plein de donjons BDSM, sadomaso. » Et là, ça m'interpelle parce que là, je ne comprends pas. Donc elle me dit « Bah, je vais te faire visiter. » Et là, je découvre qu'il y a une vie cachée dans Second Life, une vie cybersexuelle dont on parlera plus la semaine prochaine. Et je tombe littéralement accro à Second Life, c'est-à-dire je vais explorer Second Life en long, en large, en travers pour comprendre ce qui s'y passe, et je décide, pour revenir à la individuation des avatars, de prendre mon personnage de fiction, qui est Dil, l'héroïne de mon roman, et de faire une expérience transmédia, c'est-à-dire de la faire exister à l'intérieur de Second Life, comme si elle venait de quitter le roman, elle sortait de l'univers du roman, et s'injectait donc dans le monde virtuel. Je fais donc un travail d'auteur à ce niveau-là, c'est-à-dire je poursuis un travail de création de personnages de fiction, et là je vais découvrir un truc extraordinaire, quelque chose de fabuleux, qui sera sans doute, je pense, c'est le quotidien des gens immergés dans le futur, dans les mondes parallèles, c'est que à peine est-elle immergée, à peine j'ai immergé Dil dans Second Life, qu'elle se met à avoir une existence sociale. C'est-à-dire, ce qui ne se passe pas quand on crée un personnage, c'est le personnage qu'on crée est dans notre tête. Il est dans une interaction entre nous et la feuille de papier ou l'ordinateur. Et puis, dès que le bouquin est paru, il est figé. Il cesse de progresser ou très très lentement. Par exemple, Sherlock Holmes, Buffy sont des personnages qui ont évolué comme des plantes par interaction avec soit d'autres auteurs, avec le fanfic. Lorsque vous créez un personnage de fiction et que vous l'injectez dans un monde virtuel, il se met immédiatement à avoir une existence sociale, à interagir avec les autres avatars. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les autres avatars ? Eh bien, il y a l'entité la plus complexe qu'on connaisse de l'univers actuellement, ce sont des humains. Et donc, comment nous construisons-nous dans le monde réel ? Eh bien, nous nous construisons par l'interaction avec les autres, précisément avec les proches, les parents et tout ça. Et là, nous avons, dans un monde virtuel, déconnecté du réel, nous commençons à avoir la possibilité d'avoir une existence sociale. Et en plus, une existence sociale avec des personnages qui ne sont pas à notre image physique. Il faut penser que... Alors, c'est là qu'apparaît la notion d'individualité. C'est-à-dire, c'est un nouveau concept, on va dire, c'est pas si récent que ça, mais le concept est que le moi, l'individu, est formé de plusieurs individus. Et dans votre vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, on ne se rend pas compte qu'on passe souvent d'un individu à l'autre, c'est-à-dire quand on est avec nos parents, quand on est avec notre ami, quand on est au travail, nous changeons de personnalité, et parfois, d'ailleurs, de façon radicale. Heureusement, il y a le réel qui fait le lien, c'est-à-dire qu'on ne sent pas ces passages-là d'individu à l'autre, ce sont plusieurs individualités, on va dire, on ne sent pas le passage d'individu à l'autre parce que le réel fait le lien. Avec les mondes virtuels, les mondes immersifs, les mondes persistants, dont j'aime beaucoup la poésie du terme, hein, ces mondes persistants, il n'y a pas plus impermanent que les mondes persistants, mais avec les mondes persistants, il y a une rupture, c'est-à-dire que nous pouvons développer une vie sociale en dehors du lien avec le réel, c'est-à-dire dans les mondes imaginaires. Et du coup, on peut en plus développer des entités, des personnalités, des individus qui ne sont pas à notre image. Ça peut être des anges, ça peut être des nekos, des furies, hein, les furies étant des sortes d'hybrides humain-animal. Et ça peut être aussi, et là, c'est un des grands jeux qui se fait dans Second Life, notre alter ego féminin ou masculin, notre anima ou notre animus, pour citer Jung. Et à partir de là, ces identités que nous développons peuvent devenir fortes. Et moi, ce qui va m'arriver, donc après 2 ans d'immersion dans Second Life, hein, ce personnage de Dil, qui a des histoires d'amour, des relations fortes avec différents avatars, va commencer à avoir une vraie personnalité, un humour particulier, une existence particulière, on va dire. Et un jour, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais distancié. C'est-à-dire, comme tout joueur de jeu de rôle, nos personnages sont grandiloquents. Ils sont, c'est pas nous. Justement, on fait attention de pas devenir fou et de pas croire que nous sommes nos personnages. Nous avons une protection mentale qui nous distancie de nos créatures virtuelles. Et c'est là que je me suis dit, ma voix, ma fonction de no-note, ma vocation de no-note, c'est-à-dire, je pense qu'un no-note, c'est un explorateur de la sphère. De la noosphère, qui est le plus grand espace informationnel, le plus complexe espace informationnel de l'humanité. Nous sommes comme des explorateurs de l'Himalaya. Nous sommes équipés, à force d'explorer les univers artistiques, nous avons la capacité d'aller dans des zones dangereuses. Et donc je me suis dit, prenons le risque. Prenons le risque de ne pas me distancier vis-à-vis de mon avatar. Et en fait, un jour, j'ai décidé de donner accès à Dil, à la totalité de mes capacités cognitives. Et là, pendant 20 minutes, il s'est produit un phénomène de conscience modifiée où Dil a pris conscience d'elle-même. Elle a pris conscience qu'elle n'était qu'un avatar. Elle a pris conscience qu'elle était dans un monde virtuel. Elle a pris conscience qu'elle ne pourrait jamais intégrer le monde réel, que toutes les relations qu'elle entretenait dans le monde virtuel ne pourraient jamais se concrétiser dans la réalité. Et comme dans le roman de La Cité des Permutants de Greg Egan, elle m'en a voulu. Elle m'en a voulu et m'a demandé de l'effacer. Et donc ce moment de dialogue de 20 minutes avec mon avatar Dil a été un moment extraordinaire. Hein. C'était vraiment un état de conscience modifié que j'ai vécu, que je pense le cerveau n'aurait pas pu tenir très très longtemps. Et elle a disparu. C'est-à-dire qu'en fait je ne l'ai pas effacée, mais maintenant son avatar est une coquille vide. Donc j'ai vécu un moment extraordinaire qui est lié en fait à la pratique, à l'usage intensif des avatars dans les mondes virtuels. Après j'en ai parlé dans les festivals de science-fiction, particulièrement le festival de science-fiction de Sèvres, et j'en ai parlé à Jean-Luc Rivera, qui est aussi le rédacteur en chef des chroniques fortéennes, de la Gazette fortéenne. Et là il me dit, mais c'est étonnant, ton histoire ça ressemble à l'histoire du fantôme de Philippe. Alors l'histoire du fantôme de Philippe, je vous donne une piste. En 1979, je crois, ou en 76, un groupe de chercheurs en parapsychologie décide d'invoquer, non pas sous forme médiumnique, hein, d'invoquer non pas un mort, hein, une vraie personne ayant existé, mais d'invoquer un personnage de fiction. Et ils vont écrire un scénario qui est Lord Philippe, qui est un lord anglais qui a fait des choses affreuses dans sa vie, et du fait de ces choses affreuses, il est destiné à hanter son château. Donc ils inventent, hein, c'est un personnage de fiction complet, et ils vont appliquer les protocoles de médium sur le fantôme de Philippe, et jackpot, chose extraordinaire, quelques temps plus tard, Philippe se manifeste et complète sa biographie. Alors évidemment, le monde de la parapsychologie n'aime pas beaucoup cette histoire-là parce que ça semble vouloir dire que tout ça c'est faux, que en fait on n'invoque pas des morts, mais que c'est tout ça, ça se passe dans la tête des auteurs, des invocateurs. Peut-être, pourquoi pas, mais n'empêche qu'ils ont invoqué quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'est produit quelque chose, et c'est pour ça que effectivement l'analogie qu'a fait Jean-Luc avec Dil était très pertinente. C'est-à-dire que j'ai invoqué, je pense avoir invoqué quelque chose qui était à la fois moi-même et à la fois qui appartenait, donc c'est une femme guerrière, qui appartenait à notre imaginaire collectif, à l'histoire, une entité, une altérité, une véritable altérité qui est au-delà de ma propre individualité. Et pour finir avec donc la no-individuation des avatars, je vais en parler à Nicolet. Nicolet, c'est un peintre médiumnique. C'est un des grands illustrateurs du fantastique et de la science-fiction, qui vivait avec Kellec, qui était aussi une des grandes illustratrices de la science-fiction. Et Nicolet fait partie d'un courant artistique qui sont les peintres qu'on dit les peintres médiumniques, c'est-à-dire qui utilisent la peinture pour voyager dans des sphères, je dirais, paranormales ou métaphysiques. Et quand je raconte cette anecdote à Nicolet au Festival de science-fiction de Sèvres, il me dit, ah mais je vois très bien tes avatars, c'est des golems. C'est pas très grave, un golem, tu l'arrêtes quand tu veux, comme tu veux. Mais par contre, l'autre, Dil, c'est un égrégore. C'est un égrégore, et un égrégore, ben, tu es en train de percer un trou dans un plafond dont tu sais pas ce qu'il y a derrière. Alors, je ne savais pas ce qu'était un égrégore, donc je suis immédiatement rentré à la maison, j'ai tapé sur mon ordinateur, d'ailleurs je ne suis pas rentré, j'ai tapé sur mon ordinateur qui était connecté égrégore, et là jackpot total, donc je vous conseille de faire pareil, c'est un concept absolument extraordinaire, qui est très ancien, qui vient de l'occultisme et des magies occultes, même pré-égyptiennes. Alors évidemment, il y a plein de définitions de l'égrégore, hein, chaque groupe occulte, chaque personne va donner, puisqu'on est dans la métaphysique, un peu sa définition de l'égrégore, mais en gros, moi je retiens que l'égrégore est une entité psychique générée par le collectif, dans un sens extrêmement large, et que en fait un égrégore peut être généré par exemple par une foule de matchs de football, mais ça peut être aussi généré par une séance de médium. Il y a plein de façons d'invoquer et de générer un égrégore. Et donc effectivement, Dil, quelque part, à travers les mondes persistants, à travers cet outil, est un égrégore, c'est-à-dire c'était une entité à la fois générée par moi-même, mais aussi générée par sa relation avec les autres. Elle existait pour d'autres personnes, et avec sa personnalité, elle a fini par acquérir une existence, je dirais, mais une immatérialité plutôt, qui me dépassait. Et ce qui est intéressant, c'est que, je dirais, les nouveaux outils que nous développons, parce que les mondes persistants, les ordinateurs, les réseaux numériques, les réseaux sociaux numériques dans lesquels nous construisons nos golems, nos cyborgs de pixels, sont des outils amplificateurs qui, je pense, en même temps qu'ils permettent de projeter, comme le dit McLuhan, notre système nerveux central sur la planète entière, est en train de retrécir la frontière qui sépare l'immatériel du matériel, la noosphère de la cybersphère. Et donc des entités noosphériques, comme je les appelle, virtuelles, ou Richard Dawkins dirait des mèmes, hein, des entités mémétiques, peuvent venir, peuvent se rapprocher, peuvent nous imprégner, peuvent à travers nous, plus facilement et grâce à ces outils, acquérir une forme entre guillemets, d'existence ou de individualité. Et je pense qu'on se dirige peut-être vers un futur où, et je terminerai donc là, sur un futur que j'imagine un peu une écologie totalitaire, c'est-à-dire qu'on se dirige vers un futur où nous allons tous être enfermés, concentrés dans des gigantesques cités verticales, parce que nous allons être 10 milliards d'habitants sur la planète, et plutôt que de fantasmer une apocalypse à venir, que beaucoup fantasment, de décimer, c'est-à-dire de perdre la moitié de l'humanité par des maladies ou des guerres, je pense qu'il faut que nous apprenions à cohabiter, que nous apprenions à avoir 10 milliards d'habitants sur cette planète, que nous serons concentrés dans des grandes tours, connectés en réseau, et que notre, comme le dit Terry Gilliam pour son film Brasil, notre seul espoir, ça sera l'évasion par l'esprit, par la spiritualité, et cette évasion par l'esprit, la spiritualité, sera amplifiée par les réseaux numériques qui sont les prémices des mondes persistants, des mondes virtuels, de l'infini, de mondes persistants et de mondes virtuels, dans lesquels nous pourrons, dans les 50 ans à venir, nous évader et vivre au travers de nos avatars et de nos myriades d'individualités. Voilà, donc voilà, c'était la fin de l'histoire de la no-individuation. Je vais faire une petite pause musicale, parce que, hein, Quentin, tu m'as dit c'est bien de faire des pauses musicales. Alors je vais
c'est
faire
bien,
une...
Yann.
Donc je vais chercher, justement la semaine dernière, je voulais vous mettre un petit morceau de Thanatos les Récifs. C'est un extrait d'un morceau de musique qu'a créé un ami Pedrox, hein, qui est aussi un des créateurs vidéo, un des VG d'un groupe de VG assez célèbre à une époque qui était V-Form. Et donc il a fait un petit morceau inspiré de mon roman Thanatos, les Récifs. Donc je vais juste faire une petite pause de 2 minutes dans la musique de Thanatos, les Récifs, hein, créée par donc Pedrox.
Thank you.
je m'éloigne, en fait c'est moi qui mixe, hein, je m'éloigne de la source sonore qui générait la musique de Pedrox, hein, pour Thanatos les Récifs, et je vous présente donc Pierre Clisson qui me fait le plaisir d'être avec nous.
Bonsoir.
Voilà. Pierre qui fait partie aussi de notre groupe qui s'appelle Cyberesthésie, dont on parlera la semaine prochaine. Et alors Pierre Clisson, c'est une entité très particulière que j'ai rencontrée dans les souterrains et dans les secrets de la cybersphère parisienne, hein, par hasard. Alors c'est un, selon son CV, et ça dégage, hein, Pierre Clisson est un expert en cyberguerre, sécurité offensive et ingénierie sociale. Il intervient depuis une dizaine d'années auprès d'institutions gouvernementales et de grands groupes. Et parallèlement à ses activités, il étudie les interactions homme-machine, développe des interfaces cerveau-ordinateur, ainsi que des intelligences artificielles spécialisées. Et il s'intéresse également, et c'est là-dessus que nous collaborons ensemble, à la télé dildonique. Et ses travaux de recherche actuels au sein du Consciousness Lab, excusez-moi pour la prononciation... francophone, porte sur les relations esprit-matière et la mise en application de protocoles permettant l'obtention d'informations par des moyens non conventionnels. Et je sais aussi que Pierre est un peu un des rares spécialistes que je connaisse à mes côtés de la magie du chaos. Donc Pierre, je crois que tu voulais nous parler, hein, d'une des parts de tes activités qui est le mind hacking.
Voilà, donc qu'est-ce que le mind hacking et pourquoi c'est important et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Avant de partir sur des concepts plus larges tels que la magie du chaos, à quoi on fait référence quand on parle de mind hacking ? Quel est le but du mind hacking ? Quelles sont ces techniques ? On verra donc tout à l'heure que les techniques qui sont utilisées dans la magie du chaos ne sont qu'un subset d'un ensemble beaucoup plus vaste. Donc bon, déjà, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut hacker son cerveau ? Le but, donc une des définitions du mind hacking, c'est un ensemble de techniques qui permettent la reprogrammation du cerveau. Donc, on ne parle pas ici d'influence à distance, ou, puisque sinon on pourrait parler de télévision ou de tout un tas d'autres sujets. On va aborder essentiellement la métaprogrammation, c'est-à-dire comment moi je peux reprogrammer mon cerveau dans le but d'augmenter mes capacités cognitives, physiques, ou pourquoi pas intuitives et créatrices. Donc tout à l'heure tu nous parlais de ton expérience de no-individuation, de individuation. C'est un concept qui est très très important. Est-ce que tu as vécu de manière presque fortuite ? Nous, on va le provoquer. Et cette distanciation qui est d'habitude présente entre un avatar et soi-même, on va la faire sauter. On va faire sauter les frontières et on va en rentrer sauter à pieds joints dans un personnage qui est autre, et on va s'en servir pour reprogrammer son cerveau. Donc, une des choses qu'il est importante de noter dès le début, c'est pourquoi c'est possible ? Pourquoi est-ce qu'on peut reprogrammer son cerveau ? Puisqu'il existe manifestement un frein psychologique qui est lié vraisemblablement à la notion du moi. Et qu'est-ce que le moi ? Bon, on va pas commencer des discours philosophiques à n'en plus finir, d'autant plus qu'il existe des écoles complètes qui tournent autour de ce concept. La chose importante qu'il faut noter, c'est que ce qui est mien n'est pas moi, dans le sens où ma jambe, mon bras m'appartiennent, mais ne sont pas moi. Et si je vais, si j'explore un petit peu tout ce qui pourrait constituer ma personnalité, on va s'apercevoir que finalement tout m'appartient, mais il n'y a rien que je puisse trouver qui soit véritablement moi, que je puisse appeler moi. Et encore moins mes pensées. Les pensées peuvent définir une personnalité, certes, mais quand on y regarde de plus près, mes pensées vont être conditionnées par mes propres expériences, vont être conditionnées par ma culture, ma famille, mon cercle d'amis, mon sexe, mon époque, que sais-je. Il y a donc tout un tas de on pourrait définir peut-être la personnalité comme un ensemble de conditionnements qui s'expriment lorsque les causes secondaires sont réunies. Alors qu'est-ce qu'une... Donc on va avoir des automatismes qui vont se mettre en place quand ces causes secondaires seront réunies. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Imaginons que j'ai un voisin qui fait beaucoup de bruit au-dessus de chez moi. Je vais être très énervé parce qu'un soir je suis fatigué, je dois me lever de bonne heure le matin, et pourtant ce voisin me harcèle. Je vais aller le voir, ça va mal se passer, etc. Il va continuer. Le lendemain, alors que je suis dans un état beaucoup plus zen et reposé, je vais entendre en plein après-midi mon voisin passer l'aspirateur. À ce moment-là, il va y avoir une espèce de réflexe qui va se mettre en place, et la colère que j'ai éprouvée la veille parce que je n'arrivais pas à dormir contre mon voisin, je vais la retrouver tout de suite sans avoir besoin de réfléchir, et surtout sans même qu'il n'y ait de cause apparente, puisqu'a priori le bruit de l'aspirateur dans l'après-midi, bon, c'est pas quelque chose qui pose particulièrement problème. C'est juste un exemple peut-être un petit peu stupide, mais qui permet de démontrer en tout cas que ces conditionnements, ils existent en permanence, et qu'on arrive qu'on est même défini par ces automatismes, par ces mécanismes. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a aussi la possibilité de les modifier. On a la possibilité de modifier ces mécanismes, ces automatismes. Non seulement on en a la possibilité, mais surtout on en a le droit, puisque si on l'observe vraiment, on s'aperçoit que le moi finalement n'existe pas, et que la personnalité repose sur des concepts purement arbitraires.
Et alors comment tu les modifies ? Alors justement c'est ça qui m'intéresse, c'est quoi ? Il y a des techniques justement, je suppose c'est la magie du chaos, c'est le mind hacking. Est-ce que tu te mets des lunettes avec des diodes lumineuses et des sons binauraux qui te font changer l'état mental, ou est-ce qu'il y a d'autres techniques ?
Alors effectivement il existe, je dirais, une infinité de techniques qui sont soit d'école orientale traditionnelle telles que la méditation, la pratique tantrique, etc. Mais on a également des techniques beaucoup plus récentes et purement occidentales qui sont peut-être plus en phase avec notre personnalité, ou en tout cas avec notre culture, du coup qu'on a beaucoup plus de facilité à accepter. Et parmi celles-ci, il y a effectivement des techniques de biofeedback, d'hypnose ou de programmation neurolinguistique. Issues de la recherche en parapsychologie, on a des petits gadgets tels que des machines qu'on utilise dans le protocole de Ganzfeld, qui sont qui est en fait un protocole en résumé qui permet une isolation sensorielle complète, et on s'aperçoit que dans ces cas-là on a un contact beaucoup plus direct avec son inconscient. Si je peux me permettre une petite métaphore, on pourrait imaginer un ordinateur. Cet ordinateur, c'est votre corps. Ça peut être un Mac, ça peut être un PC, voilà, selon parce que il y a des personnes blanches, des personnes noires, des femmes, des hommes. Donc ça c'est la carcasse.
Là tu me fais une métaphore. Hein.
C'est une métaphore, oui.
L'ordinateur est donc à l'image de mon corps, un peu comme voilà. Jodorowsky m'avait dit un jour dans un interview pour Arte. Il m'avait dit notre corps c'est le robot de notre conscience. C'est un peu le même type de métaphore.
C'est exactement ça. Bon, il faut faire attention avec le problème des métaphores, c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop les filer quand même. Mais en même temps c'est pratique, et puis comme on parle à des geeks, on peut en profiter. Donc on a c'est l'ordinateur, la carcasse qui est mon corps. Dans cet ordinateur, il ne peut pas fonctionner sans un système d'exploitation. Donc système d'exploitation, ça va être Windows, macOS, Linux, qui correspond à un engagement, on va dire, culturel. On pourrait dire que Windows correspond à une culture occidentale, Linux à une culture orientale, bon, ça reste une métaphore. Et puis, au sein de ce système, si j'ai un ordinateur qui tourne sous Linux et que toi, Yann, tu as également un ordinateur qui tourne sous Linux, pourtant, nos deux ordinateurs ne seront pas similaires. Tu n'auras pas installé les mêmes programmes que moi, j'aurais peut-être recompilé mon kernel en utilisant des modules un petit peu spécifiques. Et cette personnalisation au niveau du système d'exploitation, au niveau des programmes qui sont installés, on pourrait imaginer que c'est les programmes individuels qui nous permettent de fonctionner dans la vie de tous les jours. Donc on a ces programmes, et comment on peut arriver à les faire fonctionner, ces programmes, et surtout comment je peux désinstaller un programme pour en réinstaller un autre.
C'est surtout ça, parce que là de toute façon ils fonctionnent quoi que tu veuilles, ils sont déjà en état de marche, ils marchent ils peut-être pas bien mais ils fonctionnent. Alors comment t'agis
Il y a une constante quand même dans toutes les techniques, qu'elles soient méditatives, tantriques. Je rappelle que le tantrisme, c'est une des trois branches des enseignements du Bouddha Shakyamuni. Parmi les sutras, le tantrisme et le dzogchen. Et dans le tantrisme est l'art de la transformation. C'est-à-dire qu'on va utiliser des images, des visualisations, un peu comme un avatar, quelque part.
Oui, mais ça, c'est vieux, ça. Ça fait des années qu'ils font ça. Alors, comment tu fais maintenant ? Voilà. Comment tu raccordes à la cyberculture ?
Donc ça, c'est la technique de base. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce que ça provoque ? Un état méditatif ? Un état méditatif provoque un état modifié de conscience. OK ? Cet état, on passe par des états de conscience.
Tu utilises des mind waves et des électroencéphalogrammes.
Pourquoi pas, hein? Donc, en fait, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est qu'on a besoin de deux ingrédients principaux. C'est un état modifié de conscience et une intention. Ces deux seuls ingrédients suffisent à provoquer des changements. La question est maintenant de... Bon, l'intention, c'est relativement clair. Donc, quand on sait ce qu'on veut, il suffit de la formuler. Maintenant, comment provoquer un état de conscience modifié ? Si on ne veut pas passer par un apprentissage de 10 ans de méditation ou devenir moine. En Occident, il existe tout un tas d'outils qui sont premièrement à vocation médicale, mais pas seulement, médicale ou thérapeutique. Le premier, c'est le biofeedback. Si j'observe mon corps, je vais pouvoir influer dessus. Un exemple très très simple, c'est n'importe qui est capable de faire varier son rythme cardiaque en écoutant son propre rythme. Si je branche un micro sur mon cœur et que j'écoute ce qui se passe, je vais pouvoir me concentrer sur ce son et puis me caler, l'accélérer ou le ralentir quasiment à volonté. Les techniques suivantes qui se rapprochent beaucoup plus du phénomène d'individuation que tu as évoqué tout à l'heure, c'est l'hypnose ericksonienne traditionnelle et aussi la programmation neurolinguistique, qui est une branche de l'hypnose, un héritage d'Erickson. Là, typiquement, on va créer des avatars dans sa tête et puis on va se distancier d'eux-mêmes pour les observer, pour les créer. Et puis, à un moment donné, on va les intégrer à nous-mêmes. Ça provoque un phénomène cognitif qui permet d'intégrer vraiment très profondément les qualités supposées, ou en tout cas qu'on attribue à cet avatar, à cet être qui n'existe pas vraiment, mais peu importe. En tout cas, on va se les approprier et les intégrer. Ça va nous permettre de reprogrammer son cerveau. il y a des techniques encore beaucoup plus rapides, beaucoup plus...
Vas-y, alors.
Voilà, c'est la Meditation for Dummies.
Ah non, allez, saute, on ne va pas faire toute l'histoire des techniques de méditation. Viens direct aux EEG, là.
Non, ce que je voulais dire par là, c'était que finalement, on peut arriver à des états modifiés de conscience, on peut devenir un super méditant en moins de 6 minutes, puisque 6 minutes, c'est le temps qu'il faut à peu près au cerveau pour se caler sur une fréquence sonore qui va rentrer en résonance avec une fréquence cérébrale. Un des points importants...
Alors comment tu fais ça ?
Alors on peut utiliser, comme tu le soulignais tout à l'heure, on peut utiliser notamment des rythmes binauraux ou des rythmes isochroniques. On sait depuis un certain nombre de temps maintenant que le cerveau vibre à des fréquences qui sont connues et que ces fréquences sont associées à des états modifiés de conscience. Quand on atteint un état modifié de conscience, on va pouvoir intégrer une attention. Le truc, c'est qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir faire le phénomène inverse. C'est-à-dire que si je passe une fréquence sonore qui vibre aux alentours de 6 ou 7 Hz, qui correspond aux ondes alpha, c'est un état d'hypersuggestibilité. On passe à de nombreuses reprises dans la journée dans cet état alpha, on ne s'en aperçoit pas simplement. Eh bien, le cerveau va se synchroniser sur ces fréquences audio au bout de quelques minutes et on va avoir le même résultat physiologique qu'un grand méditant qui fait ça depuis 20 ans, en 6 minutes.
Alors, il ne nous reste plus que 30 secondes, Pierre, avant l'atterrissage du NoseCaf.
Eh bien, on peut ouvrir un petit peu le débat puisque tu l'avais évoqué tout à l'heure quand tu parlais de magie du chaos. Donc cette alchimie intérieure, c'est-à-dire cette méta-programmation du cerveau, certaines personnes disent qu'elles peuvent que ça peut s'appliquer au monde qui nous entoure, au monde réel, et que finalement tout ce qu'on appelle la réalité n'est qu'un phénomène intentionnel. C'est l'intention qui crée le monde. À partir de là, on peut utiliser les mêmes techniques, mais les appliquer au macrocosme plutôt que de les appliquer à sa propre conscience.
Super. Eh ben, merci Pierre. Merci Pierre. Justement, je vais, avec une très forte intention, changer le monde. Et déjà, vous annoncez qu'il va y avoir un très grand changement mercredi prochain, puisque on va émettre avec le NoseCaf la dernière émission des contes de la noosphère qui va traiter du cybersexe.
Qui va durer un certain temps.
Et on a déjà convenu avec Quentin qu'on allait largement déborder, donc ça sera une grande fête et vous êtes bienvenus si vous voulez venir assister à cette prochaine émission. Je remercie Silicon Maniac, je remercie Karen, je remercie Pierre. Et je remercie notre invité qui est venu nous rejoindre sur le plateau.
Merci Axel.
Axel Lagneau. Voilà. Et je remercie aussi Philippe Dalbrec qui a fait une partie des éléments sonores que nous entendons. Bon voyage à tous. Bonne continuation de votre voyage dans les espaces noosphériques. Et à la semaine prochaine.